Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, heureux de pouvoir démarrer cette série sur l'épître de Jacques, pour éviter que les enfants aient à vivre l'épreuve de m'écouter ce matin. Ils vont pouvoir avoir un programme adapté pour eux. Donc c'est une joie de pouvoir démarrer cette série sur l'épître de Jacques, qui je pense n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Je ne sais pas si quelqu'un l'a pour livre préféré dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un peut lever la main en disant « c'est le livre que je préfère dans la Bible ». Non ? Ah, si, j'ai une personne. Ah, deux. Quelqu'un lui pousse le bras, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas quel est le niveau de liberté dans ce vote. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le livre le plus mis en avant. C'est souvent comparé aux épîtres de Paul, en particulier peut-être l'épître aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens. Et c'est parfois vu comme moins riche en contenu théologique, en enseignement sur le fondement de la vérité. Et quand on apprend à l'école à quoi doit ressembler une bonne prédication, il y a toujours cette idée d'avoir une introduction, un développement sur les vérités du texte, sur le fondement théologique, et puis ensuite viennent les applications, ce qui concerne notre vie concrète, ce que ça implique pour notre quotidien. Et d'une certaine manière, Paul, il aurait été le premier élève, le premier de la classe. Souvent dans ses épîtres, on a bien cette séparation, il nous accroche avec une introduction, et puis un développement riche dans tout le corps du texte, et puis ensuite des applications. Et d'une certaine manière, suivant ces critères-là, Jacques, il n'aurait pas été forcément premier de la classe, parce que tout de suite, il passe aux applications, et presque tout au long de l'épître, c'est très centré sur les conséquences pratiques pour notre vie de ces vérités fondamentales, de ces vérités qu'on pourrait parfois qualifier de plus profondes, et lui passe directement à l'application. Mais je pense que c'est précisément la richesse de cet épître. Et que bien souvent dans la Bible, sans avoir l'idée de donner moins de valeur à des enseignements plus fondamentaux sur la foi chrétienne, bien souvent dans la Bible, ce qui est pointé du doigt, ce que Dieu met en tension, ce qu'il montre dans nos vies, c'est le manque de mise en pratique et pas forcément le manque de connaissance sur ce que nous devrions faire. Dieu se présente rarement à son peuple en lui disant « mais tu devrais connaître mieux la vérité », mais plutôt « mais pourquoi tu ne mets pas la vérité en pratique ?» Quand on pense à la parabole de la maison qui est fondée sur le roc ou sur le sable, l'enjeu n'est pas de savoir si la maison, si la personne a reçu l'enseignement, mais si ça a été mis en pratique. Les deux maisons ont reçu l'enseignement, mais laquelle des deux a mis en pratique cet enseignement ? Alors je pense que c'est bon de pouvoir se plonger dans cette épître et de voir tout l'enjeu qu'il y a pour nous de voir cette vérité de l'Évangile porter du fruit dans notre vie. Que ça ne reste pas notre culture générale de bons chrétiens, mais que ce soit des vérités profondes et vraies qui portent du fruit dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Alors ce matin, on va voir les 12 premiers versets de l'Épître. Mais avant ça, je voudrais qu'on prenne quelques temps pour voir quelques points généraux sur l'Épître, pour introduire cette série. Et pour ça, on peut lire déjà le tout premier verset de l'Épître. Donc Jacques 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Alors, il y a déjà un certain nombre de choses rien que dans ce premier verset, comme souvent dans les premiers versets des Épîtres. Déjà, qui est l'auteur de l'Épître ? Alors ça peut paraître un peu bête comme question, parce que c'est le premier mot, Jacques. Donc c'est Jacques qui a écrit, voilà. C'est aussi simple que ça. Après, on peut se demander, mais quel Jacques ? Parce que c'est pas les Jacques qui manquent dans le Nouveau Testament. Alors, sans entrer dans tout détail, déjà le fait qu'il n'ait pas besoin de préciser, c'est forcément que c'était quelqu'un de suffisamment connu qui pouvait se permettre de pas préciser qui il était et simplement dire qu'il était Jacques. Alors, en gros, ça nous laisse avec deux possibilités. Soit Jacques, le fils de Zébédée, l'apôtre, soit Jacques, le frère de Jésus. Et pour plusieurs raisons, en particulier parce que Jacques, le fils de Zébédée, meurt très rapidement, quelques années après la mort de Jésus, et aussi parce que tous les témoins des premiers siècles ont toujours attribué cette épître à Jacques, le frère de Jésus. Tous les commentateurs sont d'accord pour voir ce Jacques comme le frère de Jésus, celui qui a grandi avec Jésus. Et en ça, ça donne une résonance particulière. On est en train de lire l'épître de quelqu'un qui a grandi avec Jésus, Dieu lui-même. Et non seulement ça, mais avec quelqu'un qui n'a pas toujours accepté le message de Jésus. On voit dans les évangiles que la famille de Jésus, ses frères, n'acceptent pas son message dans un premier temps. Et c'est dans un second temps que Jacques a accepté le message de Jésus. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais on voit ensuite dans les épîtres et dans le livre des Actes que Jacques devient l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Il fait partie des colonnes, comme dit Paul. On le voit aux côtés de Pierre comme vraiment ceux qui dirigent cette église de Jérusalem. Donc, à aucun moment, en tout cas dans les premières générations des chrétiens, Jacques a été vu comme un enseignant de second rang, mais au contraire quelqu'un qui avait, de par son parcours et de par son enseignement, une place importante dans l'Église. Et à qui s'adresse-t-il? Alors, dans le premier verset, il nous dit qu'il s'adresse aux 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Alors, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu mystérieux dans cette mention des 12 tribus, sachant qu'il s'adresse d'une manière générale à des chrétiens. On peut se poser la question des chrétiens d'origine juive ou païenne, très probablement plutôt d'origine juive, mais en tout cas il s'adresse à des chrétiens. Mais il utilise quand même cette mention des 12 tribus, probablement dans le sens qui revient souvent dans le Nouveau Testament, du peuple de Dieu de manière générale. La même manière que les 12 tribus étaient le peuple de Dieu, on voit que le Nouveau Testament définit le peuple de Dieu autour des chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou païenne, qu'ils soient dans la continuité du peuple d'Israël ou qu'ils aient été greffés par la suite. Ils s'adressent au peuple de Dieu de manière générale. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec la mention des dispersés. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez littéral dans cette mention. Quand on pense à Jacques comme le responsable de l'église de Jérusalem, on sait, d'après le livre des Actes, que très rapidement, une bonne partie de l'église a été littéralement dispersée. Si on lit le acte 8, verset 1, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Donc, quand Jacques s'adresse aux dispersés, d'une certaine manière, pas exclusivement, mais d'une certaine manière, il s'adresse à son église, à ceux qui ont été dispersés, à ses anciens paroissiens, on pourrait dire. Et je crois que ça peut nous éclairer un petit peu sur la relative absence d'enseignement sur le fondement de la foi, parce qu'il avait déjà enseigné ces personnes-là, il avait partagé l'évangile, ils avaient déjà reçu, si on pourrait faire un parallèle aujourd'hui, ils avaient eu leur préparation au baptême, ils étaient venus au culte, ils avaient eu les études bibliques, ils avaient déjà eu toutes ces choses-là. Et quand il s'adresse à eux au loin, il leur rappelle ce que doit produire cet enseignement-là dans leur vie. Il n'a pas besoin de reposer les fondements. Alors, quelle est la structure de cette lettre? C'est intéressant de voir que les théologiens, parce que d'une certaine manière, c'est leur rôle, ont toujours des propositions à faire, mais comme sur cette question, ils ont tous des propositions très différentes, on peut se dire qu'il n'y a pas de structure très claire qui apparaît. En relisant cette épître, j'avais l'impression de revoir la manière dont les choses sont structurées dans le livre des Proverbes qu'on a vu avec les jeunes en début d'année, sur le fait que on peut prendre presque tous les paragraphes séparément et ils fonctionnent presque indépendamment, mais quand on commence à lire l'épître dans son ensemble, on voit des échos, des équilibrages, des réponses entre les différentes parties où Jacques reprend les mêmes thèmes pour les compléter, les éclairer d'un autre point de vue, tout comme les proverbes trouvent un équilibre quand ils sont pris dans leur ensemble. Et parfois on voit un proverbe à un endroit, on se dit ouais, c'est vraiment radical, c'est assez presque cru, et puis on arrive à quelques chapitres plus loin, on dit ah, il reprend le même thème, mais on voit un complément, quelque chose qui nous permet de mieux comprendre. Et je crois que c'est tout l'intérêt de lire Jacques dans son entier, et je vous encourage à le faire même plusieurs fois dans ce semestre avec cette série sur l'épître de Jacques. C'est très court, il y a une centaine de versets. De le lire plusieurs fois comme ça, des larges tranches de l'épître pour voir la dynamique dans laquelle Jacques s'engage quand il enseigne. Et j'espère qu'au travers des prédications, vous pourrez aussi voir comment il y a une vraie richesse et une vraie complémentarité dans les différentes choses que Jacques enseigne dans son épître. Alors de la même manière que la structure est un petit peu difficile à définir, on pourrait se dire que trouver un thème central pour l'épître n'est pas forcément simple. Mais là encore, en regardant l'ensemble, j'étais encouragé de voir qu'il y a quelque chose qui revient comme en lame de fond dans tout son enseignement sur l'attachement à Dieu. Et pas seulement un attachement fort, mais un attachement complet qui se voit dans nos actions. Si je devais prendre un verset qui n'est pas dans l'épître pour résumer l'épître, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tout notre être doit être attaché à Dieu et que c'est en étant attaché entièrement à Dieu que cette vérité porte du fruit, que l'ensemble de notre comportement change. Je vois un peu Jacques comme un radar à incohérence dans nos vies. Il regarde notre comportement, il voit comment on vit et il dit « Mais là, ça correspond à ce à quoi tu crois. Là, tu es en train d'agir d'une manière qui n'est pas cohérente avec ce que tu dis croire. Peut-être que tu t'attaches à Dieu, mais là, je vois que dans telle action, dans tel comportement, tu t'attaches à Dieu que de manière partielle, incomplète ou parfois même inconséquente. » Et c'est ce qui anime Jacques d'observer nos vies. Et je pense que son regard est très pastoral dans cet épître. Il regarde nos vies et il nous invite à nous-mêmes à regarder nos vies et à nous dire, est-ce que là, vraiment, mon comportement, mon attitude, mes pensées, mes projets sont le fruit d'un attachement total à Dieu, ou est-ce que c'est le signe que mon attachement pourrait être partiel ou superficiel? Alors nous pouvons maintenant continuer avec le texte de ce matin, avec les 12 premiers versets de l'épître. Alors là aussi, on verra que, à première vue, il peut y avoir presque plusieurs prédications et plusieurs éléments différents. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher plusieurs fois le temps d'une prédication normale. Mais au contraire, je crois qu'il y a des choses qui animent Jacques et qui relient toutes ces parties et qui ont quelque chose de riche à nous enseigner. Alors pour voir vraiment la progression, on fera la lecture par section pour voir comment les choses évoluent. Alors d'abord les 4 premiers versets. Jacques 1, versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez de force des hommes auxquels il ne manque rien. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Waouh, je ne sais pas si c'est très vendeur pour démarrer cette série. Ça a quelque chose de tellement contre-intuitif, de pas naturel, de presque choquant. Dire mais réjouissez-vous de vos épreuves, réjouissez-vous de vos souffrances. Alors je pense que c'est bien comme c'est formulé ici dans cette traduction de se considérer comme heureux, parce que c'est au regard de ce que Jacques veut nous enseigner que nous pouvons nous considérer comme heureux. Mais on a presque l'impression qu'il est déconnecté, qu'il ne sait pas ce que c'est la souffrance, qu'il a jamais vraiment fait face à des vraies épreuves pour nous dire considérez-vous comme heureux. Mais au contraire, quand on pense à sa situation à Jérusalem avec toutes les persécutions, quand on pense au public auquel il s'adresse, qui eux ont été dispersés, ont probablement beaucoup perdu. On voit dans l'ensemble de l'épître qu'ils sont pauvres et cette pauvreté peut probablement être liée au fait qu'ils ont dû fuir là d'où ils venaient. Je ne sais pas jusqu'où peut aller le parallèle, mais je pense que on peut s'imaginer toute la situation des migrants qui sont tout près de nous et on voit à quel point le déracinement, la perte de biens matériels, la perte de repères fait qu'ils savent ce que c'est les épreuves et la souffrance. Et c'est à mon avis à ce type d'auditoire que que Jacques s'adresse. Donc on ne peut pas imaginer qu'il n'est pas au courant de ce à quoi ressemble vraiment la souffrance. Et c'est vrai que si l'objectif de notre vie, c'est de vivre confortablement, si notre but dans la vie, c'est de vivre dans le confort et la tranquillité, alors ça n'a aucun sens d'entendre ces paroles. C'est proprement choquant et révoltant. Mais justement, dès le début, Jacques est en train de nous dire, mais regardez votre situation au regard de votre attachement à Dieu, à la lumière de votre attachement à Dieu. Et si ce qui est prioritaire dans notre vie, c'est Dieu dans notre vie, pouvoir grandir pour lui, de pouvoir le suivre, de pouvoir marcher à sa suite, alors là, il est en train d'avoir quelque chose de très important à nous dire. Il nous dit, mais dans cette épreuve, dans ces souffrances qui n'ont rien de positif en soi, ont quelque chose de positif à porter parce que l'épreuve peut vous amener à grandir, à gagner en endurance, à devenir mature, à avoir une foi qui ne manque de rien, à grandir vers Dieu. Et dès cet instant-là, il y a un test. Si nous sommes pleinement motivés pour grandir avec Dieu, alors on peut entendre ces paroles et dire oui, dans l'épreuve, il peut y avoir quelque chose de positif. L'épreuve n'est pas un sujet de réjouissance en soi, mais on peut voir qu'il y a l'occasion pour nous de vivre quelque chose d'important. Je pense que il y a un parallèle intéressant avec l'exercice physique. Le fait de s'entraîner pour les sportifs. Si notre objectif est simplement de vivre dans le confort, il n'y a aucun sens à faire du sport et de s'entraîner parce que ça représente, normalement, ça devrait représenter une souffrance à un moment ou à un autre. Mais le sportif, l'athlète, celui qui se donne un objectif, il sait que il suffit pas d'utiliser ses muscles de temps en temps pour progresser. Il faut les utiliser régulièrement et jusqu'à leur maximum, jusqu'à presque à leur rupture, pour qu'il y ait un progrès, pour qu'il y ait une croissance des muscles, pour pouvoir avancer dans ses performances. Et pour, par exemple, quelqu'un qui se préparerait à un marathon, pour lui, l'entraînement, c'est pas d'abord une source de souffrance. Bien sûr, il y a la souffrance. Les marathoniens intègrent la souffrance comme centrale dans leur entraînement. Mais l'entraînement n'est pas d'abord une source de souffrance, c'est une source de progrès pour atteindre un objectif. Et Jacques, ici, nous invite à avoir ce changement de regard sur la situation. Ce n'est pas un changement de regard qui est facile, mais qui est cohérent avec le fait d'avoir un objectif, de grandir en Dieu, d'avoir une persévérance toujours plus grande, une foi toujours plus grande en Dieu. Je sais, ça a toujours quelque chose d'un peu, je sais pas, peut-être décalé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des souffrances très grandes, et d'une certaine manière, j'ai vécu peu de souffrances, et je pense que c'est malheureusement le privilège de l'âge, souvent, d'avoir pu expérimenter ces choses-là de manière particulièrement intense. Mais je me souviens, quand j'ai été malade pendant environ un an et demi, et ça a été un vrai combat pour moi de comprendre comment Dieu pouvait permettre cette épreuve, pourquoi Dieu ne me guérissait pas, etc., ce qui est nos questions communes dans ce genre de situation. Et je me souviens précisément avoir ressenti une espèce de séquence dans cette année-là, où je combattais pour ma foi, j'essayais d'avancer, et je me sentais arriver à certains moments où je n'avais plus aucune force, pas forcément force physique, mais plus aucune force pour avancer, pour ce sentiment général d'abandon un peu difficile à exprimer. Je ne savais pas ce qui allait être demain, je ne voyais pas comment je pouvais faire un pas de plus. Et plusieurs fois, il y a eu cette séquence où d'un coup, Dieu me donnait quelque chose, un encouragement, une parole, un soulagement dans les souffrances, quelque chose. C'était différent à chaque fois. Et j'avais cette image qui s'imprimait en moi d'avoir un entraîneur à côté de moi qui mettait ce sac de sable ce sac de poids sur mes épaules et qui m'invitait à marcher. Et que, en marchant, j'arrivais au bout de mes forces, et arrivé au moment où j'arrivais à la fin de mes forces, là, il le voyait, et en bon entraîneur, il soulevait ce poids, et il me laissait de nouveau marcher sans ce poids. Et j'ai eu cette image qui s'est imprimée dans mon esprit en vivant cette séquence qui revenait, des fois à l'échelle de plusieurs semaines, des fois à l'échelle de plusieurs mois. Et je crois que c'est exactement ce que Jacques est en train de nous transmettre. Que Dieu, en bon entraîneur, en ayant un regard pour nous vers quelque chose de plus pour notre vie, pour aller plus loin avec lui, permet certaines choses pour qu'on puisse grandir. Mais il est là pour nous accompagner soulever la charge pour quand c'est trop, mais aussi permettre que cette charge puisse être sur nos épaules à certains moments pour qu'on puisse grandir. Que sans cette force supplémentaire, notre foi n'a pas l'occasion de grandir telle qu'elle devrait grandir. On peut dire qu'on croit en Dieu, on peut être absolument persuadé de faire confiance à Dieu, mais les choses ont une couleur différente quand on est vraiment face à la mise en pratique de notre foi, quand on doit vraiment faire face à une situation. Et c'est dans ce sens-là que je dis que certains parmi vous qui ont particulièrement souffert le savent mieux que d'autres, parce qu'il y a quelque chose qui se vit plus qu'il ne s'explique, que la foi en action, face au mur, que ce soit dans une chambre d'hôpital, que ce soit face à un compte en banque vide, que ce soit face à une situation sans solution, on sent très bien que notre foi est mise en travail, si je peux me permettre l'expression, elle est mise à contribution d'une manière qui n'est pas la même que dans notre quotidien. Et Jacques est en train de nous dire que c'est au travers de ces moments-là et à travers d'une vision de notre part de dire « cette épreuve n'est pas juste de la souffrance, mais c'est l'occasion pour moi de mettre ma foi en pratique que notre foi peut grandir ». C'est uniquement si nous choisissons de faire de cette épreuve un entraînement pour atteindre un objectif que notre foi va grandir. Si nous refusons cette épreuve, si nous refusons ce sac de sable et que nous nous asseyons dès le début, nous ne donnons pas l'occasion à notre foi, à notre confiance en Dieu de croître dans cette situation. Alors je voudrais continuer avec les quatre versets suivants. Versets 5 à 8. « Car si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera, car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. » Dès ce changement de section, à première vue, on peut se demander le lien est... Régulièrement, Jacques nous donne des indices sur ces transitions. La section précédente finit par « Soyez des hommes auxquels il ne manque rien » et cette section démarre avec « Si l'un de vous manque de sagesse ». Et il y a un vrai complément, un vrai enseignement fort sur comment vivre cette épreuve victorieusement, avec une vraie progression dans nos vies. Parce que en lisant les premiers versets, les versets 2 à 4, on peut se dire « C'est bien d'avancer dans l'épreuve, de mettre sa foi en action, mais globalement, quand on le vit, c'est quand même plus difficile à faire. C'est pas simplement de le dire, mais pour le faire, il y a quelque chose de très difficile. Et je crois justement que Jacques est en train de me dire, mais Dieu est là, comme un bon entraîneur, il est là à côté de son athlète. Il a des choses à lui faire vivre, mais il ne le laisse pas se débrouiller tout seul. Il a des exercices prévus pour sa croissance, mais il est là pour s'assurer qu'il ne se blesse pas dans cet exercice. Et il est là pour lui donner toutes les ressources nécessaires pour traverser cette épreuve. Si je peux me permettre de paraphraser ces deux sections, si la persévérance dans l'épreuve nous paraît inaccessible, impossible, au-delà de nos forces, c'est que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et que si nous demandons à Dieu avec foi, il nous donnera son regard sur la situation et les ressources nécessaires pour accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Ensuite, Jacques précise, mais ne doutez pas quand vous demandez cette sagesse. Ne soyez pas, soyez sûr de ce que vous demandez. Alors, des fois, je pense que ça peut être mal compris et compris dans deux sens différents. Certains vont dire, mais alors quand je prie, je dois être certain qu'il m'a donné ce que j'ai demandé. Et on pourrait dire, si c'est le cas, il y a quelque chose de presque ironique dans la situation, parce que moi, la solution me paraît claire. Seigneur, ne me donne plus jamais d'épreuve, je n'en doute pas. C'est réglé, il n'y a plus besoin d'enseigner sur l'épreuve. C'est évident qu'on est très loin de ce que Jacques imagine quand il nous dit de ne pas douter quand on demande à Dieu. Mais le centre, ce qu'il y a de sous-jacent dans toute cette épître, ressort clairement ici. Quand on reprend le verset 8, « Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises ». Il est en train de nous dire, l'enjeu, c'est pas d'être sûr que Dieu va nous donner, c'est est-ce que votre cœur est entièrement pour Dieu? Est-ce que, là, ce qui est traduit par son cœur est partagé, littéralement, c'est il a une double âme. Les psaumes parlent parfois d'avoir un cœur double. Il est en train de dire, mais Si vous lui demandez, sa sagesse, croyez que c'est vraiment de sa sagesse que vous avez besoin. Croyez que c'est vraiment lui qui est la solution. Soyez pleinement attaché au fait que Dieu est celui qui va vous permettre de traverser cette épreuve. Si vous demandez la sagesse de Dieu, avec derrière dans votre esprit une manière de penser, j'aimerais bien un peu d'aide de Dieu, mais je me réserve le droit, une fois qu'il m'aura donné son éclairage, d'estimer si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de suivre son conseil. C'est ce genre de doute que Jacques attaque ici, sur lequel il s'offusque même, il y met. Si vous demandez la sagesse à Dieu, c'est que vous devez être convaincu. C'est vraiment ce que Dieu va vous donner qui sera la solution et pas autre chose. D'une certaine manière, vous acceptez de perdre une forme de contrôle et de faire pleinement confiance à Dieu, peu importe la solution qu'il apportera. Pour reprendre l'image de l'entraîneur, je pense que, alors, n'ayant jamais été un grand sportif et n'ayant jamais eu un entraîneur personnel, je ne fais que supposer, mais j'imagine que les sportifs qui vivent plein de succès, qui remportent toutes leurs compétitions, remettent peu en question leur entraîneur. Si on enchaîne tout un tas de victoires, j'ai rarement vu, par exemple, les clubs de foot changer d'entraîneur les années où ils gagnaient les championnats. Mais c'est au contraire, quand ça commence à sentir mauvais, quand ça commence à être un petit peu plus compliqué, là, il y a tout de suite, systématiquement, la réflexion, est-ce que l'entraîneur va être changé? Est-ce qu'il faut garder cet entraîneur? Et pour nous, on peut avoir la même attitude par rapport à notre entraîneur. Nous dire, quand tout va bien dans notre vie, pourquoi on remettrait en question notre attachement à Dieu? Mais quand les choses commencent à devenir difficiles, quelle va être notre attitude? De dire, il est le bon entraîneur, celui qui va me permettre d'être victorieux dans cette épreuve, ou au contraire de commencer à carrément changer d'entraîneur et dire, Dieu, tu n'es pas à la hauteur de mes attentes et je vais aller voir ailleurs. Mais je crois que plus souvent, c'est quelque chose de plus subtil. Ou sans être capable de le dire ou en voulant éviter d'être trop direct par rapport à ça, on se dit, mais Dieu, pourquoi? Je croyais que tu entendais mes prières. Pourquoi tu permets ça? Peut-être que je vais du coup moins te prier. Je pensais que pour obtenir certaines choses en venant régulièrement à l'église, peut-être que je viendrai moins. Peut-être que je vais m'attendre à moins de choses de toi parce que je ne m'attendais pas à ce que tu permettes que je passe par telle ou telle épreuve. Et je pense que on peut avoir cette tentation de garder notre entraîneur, mais de commencer à choisir de faire une sélection dans les conseils qu'il nous donne. À l'écouter, mais que d'une oreille, parce que quand tout allait bien, on était convaincus de tous ses conseils. Quand les choses deviennent difficiles, on commence à essayer de prendre ses conseils et puis de voir s'il y a d'autres solutions à côté et nous-mêmes de devenir notre propre entraîneur pour traverser cette épreuve. Et c'est le cœur de cet enjeu au milieu de l'épreuve. Est-ce que Dieu va rester celui envers qui je mets toute ma confiance entièrement ou est-ce que je vais commencer à tester à droite à gauche? Suivant les cultures, c'est un enjeu quand on est malade de dire « Seigneur, je vais prier pour que tu me guérisses ». Mais peut-être que d'aller voir suivant les cultures, on a différents mots, mais le marabout, le rebouteux ou d'autres solutions pour tester aussi à côté. On peut avoir des enjeux dans notre travail, on voit pas de solution et on se dit Seigneur aide-moi, mais on voit une opportunité plus ou moins légale, plus ou moins propre et on se dit je vais peut-être aussi essayer d'avoir ma promotion de cette manière-là. On peut avoir des questions pour notre couple, pour notre famille, et on se dit mais Seigneur aide-moi. Mais après, si on voit que certaines possibilités ne seraient pas forcément la meilleure solution de suivant la sagesse de Dieu, on dit ouais, mais je pense que c'est quand même une bonne solution à tester parce que pour l'instant Dieu m'a pas répondu. Il y a des tests de foi comme ça qui ne sont là que au milieu de la tempête. Mais c'est justement en restant ferme au milieu de la tempête que nous pouvons tenir ferme. Alors je voudrais rapidement prendre les trois autres versets, les versets 9 à 11, qui pour le coup, eux, paraissent complètement déconnectés du thème principal. Et je vais pas rentrer dans le détail de ce que ça implique pour nous, mais il y a quelque chose à mon avis de très fort et qui revient dans toute l'épître sur notre regard, y compris sur l'épreuve. À partir du verset 9. Que le frère pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, la chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Alors c'est pas seulement le thème qu'on aime faire revenir trop souvent en général dans les pays où il y a suffisamment d'argent pour se sentir plus vite concerné par la question du riche que par celle du pauvre. Mais c'est néanmoins quelque chose qui revient très régulièrement dans la Bible. Ce qu'on appelle le grand renversement, un espèce de renversement entre riche et pauvre qui se répète, on l'a déjà lu il y a très peu de temps avec le premier chapitre de l'évangile de Luc, dans le champ de Marie, je vous le relis, les versets 52 et 53. « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. » Comme je disais, c'est pas forcément la chose qui nous parle le plus naturellement si on se sent plus du côté des riches que des pauvres. Mais il y a quelque chose d'important qui revient systématiquement, en particulier dans l'évangile de Luc et dans plein d'autres endroits dans la Bible, sur le fait que la bonne nouvelle, l'évangile, résonne de manière différente suivant notre situation, suivant qu'on soit dans l'abondance ou dans la pauvreté. Et qu'il y a, d'une certaine manière, l'évangile nous atteint d'une manière très différente suivant notre situation. Alors bien sûr, la réponse pour tous est la foi, et d'une certaine manière, nous sommes tous égaux face à l'évangile, et d'une autre manière, nous le recevons différemment. Le faible, le pauvre est souvent présenté, de manière générale, est présenté comme celui qui connaît sa faiblesse, celui qui sait qu'il a besoin d'aide, celui qui sait qu'il a besoin d'être délivré. Quand on n'a rien, c'est plus facile d'entendre Dieu nous dire « donne-moi tout ». Quand on n'a pas de plan B, c'est plus facile de faire de Dieu notre plan A et notre seul plan. Et au contraire, le défi qui est placé pour les riches, c'est de sortir de cette idée que on sait gérer notre vie, on sait faire face, on sait vivre notre quotidien, et que Dieu ne viendrait qu'en complément, qu'il ne viendrait que là où nos ressources viennent à manquer. Le riche, comme il est présenté dans la Bible, n'est pas celui qui demande à Dieu son pain quotidien. Il peut lui demander une assurance vie, il peut lui demander la vie éternelle, mais son pain quotidien, c'est bon, il a les ressources nécessaires pour faire face. Et encore et encore et encore, l'évangile vient dire au riche, à celui qui penserait avoir les ressources nécessaires pour faire face, il vient lui dire, mais non, tu as besoin de Dieu dans toutes tes circonstances. Tu as besoin d'aide dans toutes circonstances. Tu as besoin de pain quotidien et d'assurance vie. C'est pas l'un ou l'autre. Et quand on repense à cette question de l'épreuve, c'est un enjeu particulier. Est-ce qu'on va aborder l'épreuve avec cette pleine conscience qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de la sagesse de Dieu, comme c'est dit dans les versets précédents, ou est-ce qu'on va aborder l'épreuve en disant « ça va, la vie je sais gérer, j'ai des ressources, je suis intelligent, j'ai traversé certaines choses, j'ai de l'expérience, j'ai telle et telle chose, j'ai des amis, tout un tas de choses qui peuvent nous donner un regard sur nous-mêmes comme riches ». Et de dire, mais Dieu, j'utiliserai ta sagesse si j'ai besoin d'un complément, si j'ai besoin d'aide. Mais dans un premier temps, l'épreuve, ce sera l'épreuve de ma force. Et là, c'est très clair que le regard de Jacques sur l'épreuve, c'est une épreuve pour notre foi, pas pour nos forces personnelles. C'est notre foi qui doit grandir, c'est notre attachement à Dieu, c'est notre endurance en tant que personne attachée à Dieu, et pas une manière de tester nos mérites personnels, une manière de tester notre force personnelle. Et là, de pouvoir reconnaître, en tant que riche, que l'évangile nous abaisse. C'est-à-dire qu'il nous abaisse dans le sens qu'il nous amène à reconnaître que nous sommes pauvres, que nous avons besoin d'aide, que nous avons besoin, que ce soit dans l'épreuve ou quand tout va bien, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, nous avons besoin d'aide. Plusieurs commentateurs soulignent l'ironie de « si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande ». Au cœur de l'évangile, il y a le fait qu'on a tous besoin de la sagesse de Dieu, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin que notre regard sur nos circonstances soit transformé. Alors je crois qu'on est invité à avoir une attitude de pauvre face à l'épreuve, c'est-à-dire une attitude qui traduit notre pleine conscience que nous sommes dépendants de Dieu, que nous sommes dépendants de l'aide de Dieu, que nous avons besoin de cet entraîneur qui nous amène à grandir dans les épreuves et que Si nous allons faire face à ces épreuves avec nos propres forces, cette épreuve ne sera rien d'autre qu'une qu'une tentation qui nous amènera probablement à nous éloigner de Dieu et vers le pire. Et c'est vraiment en reconnaissant que seulement avec l'aide de Dieu, avec cet entraîneur qui est prêt à relever ce poids sur nos épaules dès que nous ne pourrions plus avancer, qui est prêt à nous accompagner dans toutes les circonstances, que l'épreuve peut être une victoire pour nous. Alors, ce matin, on a vu pas mal de choses, mais je voudrais vraiment vous laisser avec ce dernier verset, ce verset 12. « Heureux l'homme qui tient ferme face à l'épreuve, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Si nous sommes encouragés à une chose ce matin, c'est de garder les yeux sur notre objectif. On n'est pas là pour faire carrière en tant que chrétien et montrer qu'on est fort, qu'on a réussi en un tas de choses, mais on est là pour courir vers le but que Dieu nous donne, avec les ressources que Dieu nous donne, suivant les règles que Dieu nous donne. Et ça passe par des hauts et par des bas, et par la confiance qu'on peut avoir en Dieu dans toutes les circonstances, dans les hauts et dans les bas. Dieu nous permettra de grandir et d'être toujours plus à son image et d'être toujours plus une bénédiction pour les uns et pour les autres et de pouvoir témoigner que Dieu ne nous laisse pas seuls, y compris dans les moments les plus difficiles de notre vie. Alors je voudrais terminer par la prière. Oh Seigneur, malgré ta grandeur insondable, tu es un Dieu proche de nous qui vient nous rencontrer dans toutes nos circonstances. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui est là quand tout va bien et qui se retire quand ça ne va pas, mais tu es un Dieu qui te fait particulièrement proche de nous quand les choses deviennent difficiles, prêt à nous accompagner particulièrement avec un regard tellement personnel sur nos situations. Seigneur, ne nous permets pas de rejeter ton aide, de penser que nous pourrions nous en sortir par nos propres forces. Ne nous permets pas d'avoir un regard hautain face aux difficultés ou au contraire de te mettre en doute face aux difficultés, mais permets-nous de reconnaître ta proximité dans la souffrance, que tu es là pour permettre à des circonstances qui sont mauvaises en elles-mêmes à produire des belles choses dans notre vie, Seigneur. Merci parce que nous avons raison de te faire confiance et merci parce que nombre d'entre nous pouvons témoigner que tu es tout aussi fidèle aujourd'hui que tu ne l'étais quand ces textes ont été écrits, Seigneur. Amen.